Oui.
C'est vraiment très sympa ce truc.
Transistor. C'est la rentrée sur Transistor.
Computation.
CRNSPSTOR. En direct de rue Descartes. La web radio.
Force Field.
Des émissions de qualité. Transistor.fr.
Computation.
Des chroniqueuses et chroniqueurs.
Erasing.
Prête à tout.
Force field. Frequencies. Computation. Erasing. Force field. Frequencies.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce premier direct de l'année pour Transistor. Venez nous écouter dans les jardins Descartes, on est là pour une heure de direct. Et venez adhérer aussi si l'envie vous prend de produire du contenu radiophonique non identifié derrière un micro. Sachez qu'on vous accueille à bras ouverts. L'an passé, on vous a inventé des fictions sonores, on vous a raconté des histoires, on vous a informé le jeudi soir en direct à 20h, on a convié en studio des invités de marque et même si on a connu de mémorables galères de direct, on a adoré vous concocter des chroniques culturelles, des billets d'humeur et des jeux radiophoniques haut en couleur. Alors cette année, derrière le masque et les micros, on repart pour un tour avec encore plus de projets, d'idées à revendre et on a besoin de vos voix, alors bienvenue sur les ondes de Transistor. Vous pouvez nous écouter, on est là jusqu'à 17h, 17h30 dans le Jardin Descartes, vous pouvez venir voir ce que c'est Transistor. Vous pouvez venir nous écouter, participer, suggérer vos idées, nous parler, nous poser toutes vos questions. On est là, au cœur des jardins Descartes. Et tout de suite, on va commencer avec un petit échantillon du JRA, le journal radiophonique amplifié, un petit condensé du JRA qu'on enregistre un jeudi soir sur deux en direct au studio pro de l'école. Alors c'est parti pour une actu croustillante.
Hier a eu lieu un mouvement féministe de lycéennes sous le hashtag lundi 14 septembre ou paye ton bahut. En effet, depuis la rentrée fleurissent les témoignages de lycéennes se voyant interdire l'accès à leur établissement ou sommées de se changer en raison de leur tenue jugée indécente, vulgaire, provocatrice et j'en passe par les personnels, CPE, profs ou direction. Guerre difficile de lire le sexisme entre les lignes de règlement sommant les élèves genrés au féminin de se couvrir à tout prix leur corps, enfin à tout prix, condition non valable pour les élèves musulmanes évidemment. En plus des règlements, les rappels à l'ordre reçus par les lycéennes s'accompagnaient souvent de remarques misogynes portées sur la culture du viol et la responsabilisation des victimes. Bref, démontrant que la nouvelle génération n'est pas disposée à se laisser marcher sur les pieds plus longtemps par le patriarcat, les lycéennes se sont fait passer le mot. Et dans toute la France, hier, ont revêtu leurs shorts, leurs jupes, leurs robes ou leurs croque-tops et débardeurs et se sont présentées en masse et sous temps caniculaire pour réaffirmer une nouvelle fois leur droit à disposer de leur corps comme elles le souhaitent et sans se faire sexualiser par le corps enseignant administratif de leur lycée.
Petit voyage
en Russie maintenant. À quoi joue donc Poutine ? C'est la question qui fait la une de beaucoup de journaux en ce moment. Dans Le Monde, on apprend que le président russe a annoncé le lancement de manœuvres conjointes en Biélorussie. Loukachenko, le contesté président biélorusse, revient d'ailleurs d'une rencontre avec son homologue russe à Sotchi, rencontre lors de laquelle Poutine lui a accordé un prêt de 1,5 milliard de dollars. Pour beaucoup, Poutine chercherait à obtenir des concessions pour prendre doucement mais sûrement les rênes de la Biélorussie en renforçant l'indépendance du pays envers l'économie russe. Mais même si Poutine semble profiter au mieux de la situation, c'est une réalité un peu moins brillante qui se cache derrière les apparences. D'abord, l'Union européenne réclame une enquête impartiale sur les conditions de l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny par les Russes. Et ensuite, lors des élections régionales, lors desquelles les Russes étaient invités à élire gouverneur, assemblée régionale ou municipale, les alliés de Navalny revendiquent des victoires symboliques. Ils ont notamment été plébiscités par les électeurs dans plusieurs pôles urbains et économiques du pays, même s'il est peu probable que ces victoires soient significatives à l'échelle du pays, une affaire à suivre de très près.
Et un appel à témoins a été organisé hier par le comité Adama à la suite du décès du cousin d'Adama Traoré dans des circonstances douteuses. Mamadou, 35 ans, a été repêché dans la Seine à Marly après une altercation avec la police. Alors que le comité se bat depuis bientôt plus de 4 ans pour rendre justice à Adama Traoré et forcer la police à admettre son racisme structurel, un nouveau décès dans des circonstances proches vient d'endeuiller une nouvelle fois cette famille. Justice pour Mamadou et Adama et force au comité qui continue chaque jour le combat.
On repart pour les États-Unis. Sachez, si vous avez chaud en cette période d'été indien, que ça va se refroidir. Ça va se refroidir, nous apprend Le Monde, c'est la réponse de Trump quand on l'interroge sur les feux de forêt qui se multiplient dans l'ouest du pays depuis déjà plusieurs semaines. Alors que l'intensification des feux semble clairement liée au réchauffement climatique, le président, qui avait autrefois qualifié de canular le réchauffement climatique, a affirmé que ces incendies étaient imputables à une mauvaise gestion des forêts. Mais quand on sait que 57% des forêts de Californie appartiennent à l'État fédéral et seulement 3% au Golden State, on se demande alors qui serait à blâmer pour cette soi-disant mauvaise gestion. Profitant des incohérences du discours de son rival, Joe Biden a qualifié Trump de, je cite, « pyromane du climat ». Pendant ce temps, dans l'ouest du pays, les feux ont déjà tué 28 personnes et détruit 400 000 hectares de forêt, soit deux fois plus que la moyenne annuelle. Mais ça, c'est bien connu, c'est encore un coup des Chinois.
Et des nouvelles de Hongrie maintenant. On en profite au passage pour saluer notre petit chroniqueur hongrois, trop tôt parti pour France Culture. Des nouvelles de Hongrie donc, où le Premier ministre, si tant est que l'on puisse encore considérer qu'il s'agit d'un représentant élu, continue ses attaques contre les universités. Orbán, membre du Fidesz, parti populiste de droite, est un des principaux détracteurs de l'ancien régime communiste hongrois, cherche maintenant à faire tomber les universités hongroises sous la houlette de fondations privées favorables au régime et aux partis hégémoniques. Récemment, c'est l'Université d'art dramatique et cinématographique, institution centenaire, école des plus grands et des plus grandes cinématographes hongrois et hongroises, qui vient ainsi d'être privatisée, afin que, selon les mots d'Attila Vidmianski, nouvelle tête du conservatoire, les valeurs nationales et chrétiennes aient également leur place dans l'université. Bien sûr, des oppositions éclatent dans le pays, un peu partout, comme des oppositions éclataient aussi quand ce même Premier ministre entreprenait consciemment de restructurer l'histoire à des fins de cohésion nationale. Seulement, difficile de se faire entendre quand tous les médias sont à la botte du pouvoir. Résultat, 45 secondes dans le journal télévisé, et pas une dépêche de l'agence de presse hongroise.
On passe maintenant à un billet d'ailleurs avec toi, Benoît.
Le mouvement Nuit Debout se poursuit.
Mais c'est fasciste et réactionnaire.
C'est même étendu ces derniers jours en région.
Tous les sujets seront abordés, il sera mon invité en direct.
La pandémie a éloigné pour un temps de nos esprits certaines échéances électorales de haute importance en Europe comme ailleurs. Tout le monde au sein de l'Union européenne semble avoir détourné la tête de l'Europe de l'Est et de sa longue plongée dans l'extrême droite. Un silence assourdissant plutôt que l'engagement d'un réel débat contre l'installation durable de régimes fascisants et traditionnalistes dans plusieurs pays, à commencer par la Hongrie, mais aussi et surtout par la Pologne. Car si le conservatisme s'est installé en Pologne très tôt après la chute des ex-régimes communistes avec les présidences de Kaczynski ou de Komorowski, la réélection d'Andrzej Duda pour un second mandat de 5 ans le 17 août dernier a marqué un tournant dans le recul des droits des minorités LGBTQI+, et le droit des femmes en Pologne. Duda a fait campagne cette année autour de l'idéologie LGBT, parlant de peste arc-en-ciel comme menace qu'elle supposait représenter sur les familles polonaises comme des pédocriminels en puissance. Ce dernier a jeté de l'huile sur le feu d'un terreau fasciste déjà particulièrement fertile, où un tiers des municipalités s'est d'ores et déjà déclaré zone sans LGBT. L'héritage de l'ancien pape réactionnaire Jean-Paul II n'y est pas pour rien en Pologne, où se dessine le renouveau d'un mouvement traditionnaliste porté vers un populisme catholique accusant tous les droits acquis de porte ouverte vers le communisme. Enhardis par l'Église et l'État, les fascistes se sont sentis autorisés à menacer de mort frontalement les différentes prides qui se sont tenues un peu partout dans le pays. Devant le silence assourdissant des divers gouvernements européens, face à la menace qui monte pour les minorités LGBTQI+, en Pologne, certains rassemblements se sont tenus un peu partout devant les ambassades de Pologne, comme à Lyon, il y a maintenant 2 semaines. Alors que la situation devient de plus en plus préoccupante, les militantes queer attendent une réaction de la communauté européenne vers ce qui s'annonce être un des plus grands reculs des droits humains, qui pourrait d'ailleurs ne pas être le dernier en date, alors qu'on voit déjà se profiler derrière une politique nataliste un retour en arrière du point de vue du droit à la contraception et à l'avortement.
Et on passe maintenant à la revue de presse.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Bien, c'est la rentrée et à la une des journaux, on s'interroge sur ce que nous réserve cette année scolaire pas comme les autres. Alors il y a bien sûr dans Le Monde et l'Obs des dossiers sur l'école de demain. On y apprend notamment que les écoliers chinois se fabriquent des immenses chapeaux à hélices, des sortes de cartons peinturlurés qui leur laissent le choix entre maintenir une distance avec leurs camarades ou les éborgner. Dans d'autres articles, on parle de ces enseignants qui innovent pour faire face à la pandémie en enseignant à la télévision à Mexico ou en tournant des films depuis chez eux en Espagne pour reconstituer des batailles et enseigner l'histoire de manière un peu plus vivante.
En revanche, nous dit l'Express, il n'y a que le Covid n'a pas obligé à changer de modèle.
Oui, il y en a que le Covid n'a pas vraiment entravé. L'hebdomadaire titre en effet GAFA, les rois du monde, et nous informe qu'au premier semestre 2020, Apple a vu sa valeur en bourse gonfler de 1000 milliards de dollars, c'est l'équivalent du PIB des Pays-Bas. Et le succès des GAFA n'est pas prêt de s'arrêter, car leur force, nous dit-on, c'est leur capacité à se diversifier. Apple a donc acheté NextVR pour développer la réalité virtuelle, Google s'est offert North, le spécialiste des lunettes connectées, et j'en passe. Bref, un succès qu'il semble difficile d'entraver.
Puisqu'on parle de technologie, on parle aussi d'une étrange innovation dans la presse d'aujourd'hui, non ?
Oui, l'Obs nous présente les Reborn. Ce sont des bébés artificiels rechargeables grâce à une prise USB et entièrement customisables. Vous pouvez choisir les cils, la couleur des cheveux, la taille du cou. Ces bébés sont équipés d'appareils qui permettent d'imiter les battements du cœur, la respiration ou la succion de vrais bébés. Une idée qui aurait déjà guéri des personnes dépressives ou atteintes d'Alzheimer. Mais rassurez-vous, si vous n'y comprenez plus rien et que vous avez juste envie de partir loin, très loin de ce monde un peu fou, vous pourrez sans doute vous exiler bientôt sur Vénus.
On aurait donc découvert de la vie sur Vénus ?
Oui, on suspecte en effet, c'est la nouvelle du jour, la présence de traces de vie sur Vénus, d'après une étude publiée dans Nature. Une équipe d'astronautes a en effet détecté au-dessus de la surface de Vénus du gaz phosphine, une substance produite uniquement par des microbes et des processus humains. Il est donc très probable que le gaz soit produit par des microbes extraterrestres et qu'une forme de vie flotte donc dans les nuages de Vénus. Une hypothèse corroborée par le fait que les nuages à la surface de la planète forment un environnement tempéré, plutôt propice au développement de la vie.
Et si on retournait un peu en France, les pieds sur terre ?
Eh bien, la presse nous annonce aujourd'hui une triste nouvelle. Jean-Pierre Pernaut quitte le mythique JT de 13h. Fini donc les intenses reportages dans l'intimité de l'atelier de tournage sur bois de Tréfouilly-les-Oies. Fini les logorées passionnées sur la fabrication de chèvres à pommée en Berry.
En revanche, ce qu'on risque d'entendre bientôt au JT, ce sont les opposants à la 5G.
Oui, car si les élus de gauche et écologistes ont réclamé un référendum sur la 5G, Macron a défendu corps et âme le projet de 5G ce matin même, évoquant une nécessaire souveraineté numérique, la rentabilité du secteur des technologies et un tournant de l'innovation à ne pas rater. Le chef de l'État s'est d'ailleurs moqué des Gaulois réfractaires à cette innovation, apparemment révolutionnaire, fustigeant ce qui, je cite, « nous explique qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à l'huile. Je ne crois pas, a poursuivi le président, que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. »
On en regretterait presque Jean-Pierre Pernaut.
Et oui, mais si vous voulez vraiment, je peux vous fournir une anecdote digne du JT de 13h. Savez-vous que sans le Covid, le gel hydroalcoolique dont on s'enduit les mains actuellement aurait pu devenir du vin? Oui, nous apprend Le Monde, les vignerons en excédent de stock ont en fait deux options, compter sur les promotions de fin d'année ou transformer leur récolte en gel hydroalcoolique. Vignerons qui font partie de ceux, nous apprend Le Monde, qui figurent sur le nouveau carnet timbre de la Poste, dédié, je cite, aux héros du quotidien ayant affronté de près la pandémie. On a d'ailleurs besoin de héros au micro, alors rejoignez-nous si vous avez une éloquence folle, une passion dévorante pour tel ou tel sujet, ou simplement une envie de discuter avec nous de livres, de cinéma, d'actualité, de politique, de tout ce que vous voulez. On vous accueille sur Transistor.
C'est vraiment très sympa ce truc.
Transistor. C'est la rentrée sur Transistor.
Computation.
En direct de rue Descartes, la web radio.
Force Field.
Des émissions de qualité. Transistor.fr.
Computation.
Des chroniqueuses et chroniqueurs.
Erasing.
Prêt à tout.
Force Field. Frequences. Computation. Erasing. Force field. Frequences.
Et Nathan, tu nous parles maintenant d'économie.
Marie, bien, on reprend cette année comme on a fini la précédente avec l'État qui met de l'argent dans nos petites poches.
Ah, quelque chose me dit que tu vas parler du plan de relance.
Dans le mille, on dirait presque que nos émissions sont préparées à l'avance. Alors après un dispositif de chômage partiel étendu, dont on a déjà parlé ici, un fonds de solidarité pour venir en aide aux entreprises et des mesures de garantie de prêt qui a permis à l'endettement privé d'encore plus exploser, l'État a décidé de passer à la vitesse supérieure en lançant le 3 septembre son plan de relance. On écoute notre ministre de l'Économie.
Ce plan de relance doit nous permettre de créer les emplois qu'attendent les Français.
Des emplois, oui, car l'économie va mal, la culture, l'automobile, le tourisme ne se portent pas bien. Et pour faire face au choc, je cite les mots du ministre, un plan de relance exceptionnel de 100 milliards d'euros est déployé par le gouvernement autour de trois volets principaux. L'écologie, l'objectif stratégique de ce plan, pour accompagner la transition vers une économie plus verte et durable. La compétitivité, pour donner aux entreprises les conditions les plus favorables pour développer leurs activités et ainsi préserver l'emploi des salariés. Et la cohésion, pour garantir la solidarité entre les générations, entre les territoires et entre tous les Français.
Et globalement, qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, ça veut dire que l'État va tenter de mettre un petit coup à l'économie en l'encourageant à aller dans la bonne direction. Alors, quelle est-elle, cette direction ? Celle envisagée par l'État est un retour à la croissance, une reprise après une chute de 13,8% au second trimestre, en empruntant un chemin un peu plus vert qu'auparavant, sans changer drastiquement pour autant de direction. Surtout, ce plan indique qu'après avoir subi un choc, il est le temps de la reprise pour l'économie française. Une reprise qui ne se fera pas tout seul. Pour mieux comprendre, faisons un bond en 1929 et nous traiterons de la plus grande lubie des économistes, John Maynard Keynes. Alors en 1929, lorsque la crise se produit, le débat public se tourne vers les économistes pour trouver une solution. Le problème est que la macroéconomie est à l'époque encore balbutiante et les économistes n'ont pas forcément de réponse. Il faut dire que la macroéconomie pré-keynésienne, si tant qu'elle ait existé, postulait un fonctionnement des marchés qui devait assurer un équilibre systématique entre offre et demande par le seul jeu des variations des prix, en particulier sur le marché des fonds prêtables auquel est réduit le marché financier. Bon, pour faire simple, à l'époque, les économistes préconisaient de ne rien faire, qu'il ne faut surtout toucher à rien puisqu'épargne, investissement, emploi, etc., tout doit s'équilibrer. Sauf qu'à l'époque, rien ne s'équilibre, et déjà que peu avaient vu la bulle spéculative se former, nombreux sont les hommes à la tête des institutions à sous-estimer la crise. JP Morgan disait à l'époque, par exemple, qu'il n'avait jamais entendu parler de dépression. Il faut attendre 1933 et le fameux New Deal de Roosevelt pour une réaction, puis les travaux de John Maynard Keynes, notamment son grand classique « La théorie générale de l'emploi et de la monnaie », pour fournir un cadre théorique à tout cela. Ce qui se passe à l'époque, pour faire simple, est un manque de coordination. Les banquiers ne prêtent plus à des entreprises qui produisent de moins en moins, puisque de toute façon, leur production ne se vend pas, et donc on assiste à du licenciement et un chômage de masse qui s'installe. Mais avec tous ces nouveaux chômeurs, il n'y a personne pour investir et personne pour consommer. En bref, l'économie tourne en sous-régime. Pour Keynes, il est là le rôle de l'État. C'est le seul à pouvoir intervenir pour refaire repartir la machine. Cette pensée sera modélisée ensuite par John Hicks en 1937, produisant une synthèse assez bluffante pour donner l'impression aux États que l'on comprend l'économie et surtout que l'on pouvait la réguler à souhait.
Oula, Nathan, tu t'égares là.
Oui, pardon. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis Keynes et cette crise de l'intervention de l'État, l'intervention de l'État est devenue comme le complément indispensable du marché dans la fonction de coordination de l'activité économique à la suite d'une crise. Fini la tentative de 1929, les plans de relance sortis de crise ne sont plus contestés en soi et sont promus quasi systématiquement. Nicolas Sarkozy, par exemple, après 2008, programmait 26 milliards d'euros d'investissement en annonçant fièrement « Notre réponse à la crise, c'est l'investissement ». Aujourd'hui, c'est 100 milliards et peu de voix s'élèvent contre.
Et en quoi consiste ce plan d'investissement ?
Bien comme déjà légèrement évoqué, il se divise en trois volets. Un premier écologique avec 30 milliards dans l'écologie qui va dans les transports, la rénovation de bâtiments. Un second volet concerne la compétitivité et l'innovation avec 35 milliards d'investis. Et enfin 35 milliards pour le troisième volet nommé cohésion territoriale. Ces sommes sont à mettre dans l'économie à travers des subventions comme celles proposées à des projets visant à décarboniser l'économie ou bien à travers des réductions d'impôts, notamment sur la production. Et puis aussi à travers des primes comme des primes à l'embauche pour ne nommer qu'un échantillon. Je ne peux malheureusement pas tout détailler, à moins que l'on prolonge la chronique jusqu'au dîner. A noter que ce plan de relance s'étale sur plusieurs années, de 2020 à 2022 et potentiellement jusqu'à 2024.
Ouais, donc c'est presque de la planification à ce niveau-là.
Haha, qui aurait cru que Macron était bolchevique ? Par ailleurs, merci l'Europe qui est censée fournir 40 milliards sur ses 100, soit 40% du plan.
Ouh, un calcul bien compliqué que t'as fait là. Et ce plan est critiqué ?
Pas tant que ça. Déjà que beaucoup l'attendaient. Après, il n'empêche que certains, comme le magazine Valeurs Actuelles, trouvent l'enveloppe trop faible, surtout en comparaison de nos voisins allemands et de l'oncle Sam. En effet, Berlin aurait consacré 6% de son PIB pour contrecarrer la crise et Washington 10%. En ce qui nous concerne, ce sera seulement 4%. Une critique que partage Jean-Luc Mélenchon. Puis ensuite, il y a débat sur ce que l'on doit soutenir. Je me répète, mais l'intérêt d'un plan de relance est de diriger l'économie vers ce qui nous intéresse. Donc derrière tout plan de relance, il y a un petit projet de société. Entre Valeurs Actuelles qui souhaiterait que l'industrie traditionnelle soit plus soutenue et Jean-Luc Mélenchon qui souhaiterait qu'on profite de cette relance pour sortir du nucléaire, les avis divergent. Il demeure quand même généralement des inquiétudes quant au plan de relance. Premièrement, est-ce que l'appel du pied de l'État sera reçu par les entreprises et les investisseurs ? Car pour subventionner des rénovations du bâtiment, il faut encore que rénovation se fasse. C'est ce que craint par ailleurs le cercle des économistes, car pour citer une énième fois Keynes dans cette chronique, l'offre ne crée pas nécessairement sa propre demande. Les cercles des économistes s'inquiètent d'une demande trop faible et notamment d'une consommation qui ne suivrait pas. Puis, il y a la manière dont l'enveloppe de 100 milliards sera gérée. Sans rentrer dans les débats politiques déjà évoqués, il y a toujours une crainte que cet argent serve à financer des activités finalement peu bénéfiques à l'économie. Dans tous les cas, et malheureusement comme souvent, avant de pouvoir juger ce plan de relance, il faudra encore attendre quelques années.
Patience, patience. Donc, en attendant, si vous voulez nous rejoindre, on est actuellement en cœur des jardins Descartes. Venez nous écouter, venez nous voir. On est là jusqu'à 17h et même après. Venez nous poser des questions, venez nous rejoindre. Et si l'économie vous intéresse, venez rejoindre Nathan et les autres le jeudi à 20h pour le journal radiophonique amplifié.
Il giornale radiofonico dell'amplificazione.
Sur Transistor.
Voilà, on est là jusqu'à 17h, 17h30, venez nous rejoindre. Et encore pour cette soirée, on aura une fiction, une chronique horoscope, un petit peu de culture. On va parler de la rentrée littéraire, quelques improvisations, un petit peu de publicité. Et n'hésitez pas à nous rejoindre et à poser vos questions, à aller voir sur notre site transistor.fr. Nous sommes actuellement en direct. Vous pouvez nous écouter en ce moment et quand vous voudrez, ce soir, demain et toute l'année. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour pour voir les nouveautés, les nouvelles émissions qui sont sorties récemment sur Transistor. Vous y trouverez de la musique, de la littérature, de l'actualité, l'émission Parloir de Benoît et beaucoup d'autres surprises à voir sur transistor.fr. Si vous aimez le théâtre et le cinéma, n'hésitez pas aussi à venir nous retrouver. Si vous écoutiez France Inter, sachez aussi que nous aussi, on a des invités de marque et sur Transistor, pas besoin de se lever aux aurores pour les écouter. Si vous écoutiez France Culture, sachez que sur Transistor aussi, on parle d'hétérotopie, de troubles ontologico, métaphysico, poético, existentiels et des dernières sorties littéraires. Et si vous écoutiez Énergie, sachez que Transistor a été officiellement reconnu comme remède officiel au mauvais goût et qu'on passe aussi de la musique de qualité sélectionnée avec amour et commentée avec soin. Je te laisse, Nathan, pour la musicienne.
Et oui, une année de plus, une année de moins, la musicienne attaque sa troisième année d'existence. Puisse la musique continuer de vivre dans nos oreilles et sur les ondes de Transistor.
Je vais dire des trucs simples. I need somebody.
Alors, quelles actus musicales y a-t-il cette semaine dans ta musicienne, Nathan ?
Alors, une première nouvelle triste, puisque le chanteur de Toots and the Might Fall, Frédéric Ibert, est mort vendredi dernier à Kingston, repose en paix. Une seconde guerre plus rugissante, puisqu'il semble que les lives Facebook de DJ, qui ont pour certains animé le confinement, semblent compromis. En effet, la plateforme, dans ses directives spécifiques à l'utilisation de la musique, écrit « Vous êtes responsable du contenu que vous publiez ». L'utilisation de la musique à des fins commerciales ou non personnelles en particulier est interdite, sauf si vous avez obtenu les licences appropriées, le tout en promettant des sanctions. Pour quitter les mauvaises nouvelles pour celles plus loufoques, Travis Scott a lancé une collab avec McDo, ce qui contient un menu au nom du rappeur, des vêtements et un coussin nuggets qui a suscité l'envie des réseaux sociaux. En tout cas, n'espérez pas tenir un régime avec un repose-tête du genre.
Et du côté des concerts alors ?
Eh bien, tandis que le Berghain, légendaire club berlinois, se transforme en galerie d'art, le non moins ambiancé Auditorium de Lyon reprend pour une nouvelle saison avec un concert d'ouverture ce jeudi, où on retrouvera la douceur et la joie des violons de l'ouverture d'Oberon, pour réveiller l'Auditorium endormi, avant de laisser place à l'œuvre majeure de la soirée, le concerto pour piano numéro 20 de Mozart. Tiens, ça ne te rappelle rien, Marie ?
Non, comme ça, non. Et comme l'a subtilement induit cette virgule musicale, c'est dans un registre plus classique que j'ai envie de vous attirer.
Et comment faire plus classique que Mozart ?
Eh oui, dimanche 20 octobre à l'Auditorium, l'Orchestre National de Lyon accompagnera le pianiste et chef d'orchestre Christian Zacharias sur le très connu et très romantique concerto pour piano numéro 20 en ré mineur de Mozart.
Et oui, comme on a pu l'entendre, c'est précisément ce même morceau de Mozart que recommanda à Maé lors de la première émission, dans la première émission de La Musicienne. La musicienne a elle aussi ses refrains. Les musiciens changent, la musique et la musicienne demeurent. Toujours du côté de l'Auditorium, il faudra aussi souligner le bon plan bien connu des étudiants lyonnais, mais dont certains nouveaux arrivants n'ont peut-être pas encore entendu parler. Je parle du concert des étudiants qui est gratuit et réservé à nous autres forçats des examens. Cette année, il aura lieu le 1er octobre, on y entendra Beethoven et Brett Dean. Alors surtout, n'hésitez pas et foncez une fois la billetterie ouverte.
Ouverture de la billetterie le 17 septembre, soit dans 2 jours.
Exactement, et c'est malheureusement tout pour les recommandations de concerts à aller voir à Lyon, car mesures sanitaires obligent, l'offre événementielle demeure toujours pauvre, si bien qu'on a du mal à faire la différence entre Lyon et Saint-Étienne. Et les concerts ne sont pas les seules façons de faire vivre la musique. Nous venons ainsi d'écouter le premier EP de Sainte Panthère, une artiste originaire de Californie, à suivre et à écouter. Dans cet EP nommé These Days, la multi-instrumentiste, chanteuse, productrice prolonge l'été avec cette balade au tempo lent et une manière d'aborder la partie chant qui n'est pas sans rappeler un certain Frank Ocean. Hormis dans cet extrait de These Days, morceau issu de l'album éponyme, Daniela Borges Giraldo, de son vrai nom, nous emmène sur un site d'une grande qualité où se mélangent des influences funk, new soul et rap. Il y a de tout dans cet album, des ballades au rythme lent et à l'instrumental minimaliste où Sainte Panthère se montre fragile à la manière du déjà évoqué Frank Ocean ou bien d'un Childish Gambino. Il y a des morceaux joyeux et ensoleillés où les claviers nous portent jusqu'à Long Beach et parfois, lorsque l'instrumental se cache derrière une basse et une rythmique qui s'enrichit, Sainte Panthère s'autorise même à rapper. Le tout reste cependant impressionnant de justesse et de cohérence de par le ton qui reste toujours ensoleillé. Alors parfois c'est le soleil d'Emmenez-moi d'Aznavour qu'on observe mélancolique disparaître à l'horizon. D'autres fois c'est le soleil vacancier qui porte en soi la promesse d'un bel été. Dans tous les cas, les sonorités ouvertes, parfois dans la lignée d'un Anderson .Paak, font vibrer d'une bien belle manière nos tympans.
Un début prometteur donc.
Oui, et presque suffisant à lui-même, mais le temps avance et vient le moment de changer de fuseau horaire pour se retrouver sur la côte Est, au cœur de Brooklyn, avec Yann Isia, qui sortait ce qui peut être considéré comme son premier album, et dont le public attend qu'elle confirme les attentes et espoirs placés en elle. Yann Isia, qui s'est fait connaître avec une série de singles, dont 24/7, toujours très populaire chez son éditoire, bien qu'il soit sorti en 2016. Elle sortit également en 2018 le micro-album Suga Sextape Volume 1, qui, comme son nom l'indique, est très porté sur les relations sexuelles dans un style R&B parfois expérimental pouvant désorienter l'auditeur non averti. Quoi qu'il en soit, c'est avec un album plus accessible que la chanteuse revient en 2020, dont on écoute un extrait. Not every locked door is closed, baby, you got the keys to win. Pretty does, but sometimes it's just not enough. When all you thought, pockets running up, you're my greatest gift. I just fell in love. L'album outil est donc plus ouvert et peut surprendre les anciens fans de la chanteuse habitués à des expériences électroniques sur sa voix. Ici, point de voix étrangement pitchée ou robotisée, la chanteuse est nue au micro pour un album qui expérimente sur des terrains conquis. En effet, si l'album n'apporte pas de réelles nouveautés sur la manière de faire de la musique, contrairement aux sorties précédentes où l'absence de repères pouvait rendre déroutante l'écoute, ici que ce soit sur les instrumentaux R&B ou parfois funk, on avance en terrain connu, mais le sens de la mélodie de Yann Isia et la qualité globale de la production ont fait un set titre de grande qualité dont l'écoute glisse aisément dans nos oreilles.
Merci Nathan, une dernière recommandation peut-être ?
Alors là je suis un peu embêté, j'hésitais tout le week-end entre deux albums de rap français, tous deux sortis vendredi dernier, tous deux ont fait passer un cap à leurs auteurs, mais tous deux empruntent des ambitions musicales bien différentes. Le premier, Pour de vrai, c'est le nom de l'album, est sorti pour l'anniversaire du rappeur de l'artiste Ichon. L'album est léché comme à l'habitude avec le travail rendu par le rappeur de Montreuil et va chercher des influences au-delà du rap à faire penser dans les intentions au très bon Igor de Tyler the Creator. On y retrouve des rythmiques plutôt lentes et des instrumentales très musicales à l'influence électronique comme dans mon titre de l'été Noir ou Blanc, voire parfois des influences presque variété française dans certains arrangements. Pour ses 30 ans, Ichon nous offre un très beau cadeau fait d'introspection et de réflexion sur les relations amoureuses, ce qui est diamétralement l'opposé de l'album de Freeze Corleone sorti le même jour, car c'est de lui dont il est question ici. Il faut dire que depuis le départ, leurs musiques sont bien différentes. Freeze Corleone est un rappeur qui cultive le mystère embaumé dans une multitude de symboles qu'il emprunte aux théories du complot les plus folles. Freeze épouse totalement cette esthétique occulte et sombre mixée à l'univers du rap américain fait de drogue, d'armes et sur son dernier album d'argent. Les instrumentales sont bien loin d'être ouvertes, comme si la production émanait d'une sombre cave cachée. On est sur des nuances de noir, des nuances de basse et des percussions très amples et très rythmées qui servent à mettre en évidence le flow, c'est-à-dire la manière dont le rappeur pose ses paroles sur l'instrumental, si caractérisé du rappeur. Car si Freeze Corleone fascine pour l'aura mystérieuse qui se dégage de ses sons, il est aussi renommé pour être un des rappeurs les plus techniques de sa génération. Ainsi, il faut encore s'attendre ici à des placements millimétrés, des rafales de punchlines cryptiques, à en faire perdre la raison. Mais si ces derniers éléments sont le costume habituel du rappeur, ce dernier innove par de nombreuses collaborations. Ainsi, il se fait le plaisir d'inviter une poignée de rappeurs, réalisant presque une sorte d'histoire de la scène underground depuis les années 2000 jusqu'aujourd'hui. Si toutes les collaborations ne sont pas réussites, il n'en demeure pas moins qu'en ressort des ovnis imparables comme Numérologie avec Stavo ou la collab FR la plus attendue de l'année, pour emprunter les mots du rappeur, avec une joute verbale d'exception entre Freeze Corleone et Alpha One pour ce qui est sûrement un clin d'œil à Laurent Bounot de Skyrock avec le morceau rap catéchisme.
Fall dealer, Corleone serial, rime sale dealer. Hermès, Burberry, j'porte pas de dealer. Fuck le lin, R.E.P. Mac Miller.
Val Freezer, toujours anti-diable, pas de teaser. Gucci, Prada boy, j'veux le bif de Val qu'il meurt. S'il croit qu'il me vale qu'il meurt.
Shenzhen et Gay, Philippe. Concu pour moi, c'est des Philippe. S.O. le plug H24, branché comme une télé Philips.
Le Chisnout et Gay et Philly. Concu pour moi, c'est des Philis. Tu veux comprimer pour qu'il gobe la pilule. Bien sûr, j'suis Kilu, Philippe, Lingue, Lucky Luke. Fier, c'est pute négro de la map.
J'fume des runs, c'est des Obama. Ils boivent du sang comme Hillary Clinton et Michelle Obama.
FLR, GF, le NOM. Ça part en sucette, l'ambiance est obscure. On excelle, tu le sais qu'on est au-dessus. Mes chaussettes coûtent plus cher que tes chaussures.
Si tu sais, donne dada. Impose le NRM comme dada. J'arrive Rital, raciste comme Prada. Ils savent pas d'où sort, j'suis comme Tada.
75014, c'est la base. On envoie les plus gros missiles de France. À ma gauche, y'a Miss Guadeloupe. À ma droite, Miss Île-de-France.
Alpha One, Freeze Corleone. Sur la prod rap catéchisme. Soldat d'élite comme Takeshi. La LDO dans le château comme Takeshi.
Crash ce feu, quel que soit le tempo. Eux et nous c'est pas pareil, bitch. La guerre c'est pas le paintball. La tech c'est pas le baseball. Dakar, Conakry, mode mafia comme la 36. On te respectait anciennement. J'suis dans l'enseignement, t'es dans le renseignement. Dur dans la découpe et d'enseignement.
On a les combos et les enchaînements. Philippe Fingo,
Razal Ghoul. C'est sympa ce truc.
Transistor. C'est la rentrée sur Transistor.
Computation.
Yeah, en direct de rue Descartes, la web radio.
Force Field.
Des émissions de qualité. Transistor.fr.
Computation.
Des chroniqueuses et chroniqueurs.
Erasing.
Prêt à tout.
Force Field.
C'est la rentrée sur Transistor, vous pouvez nous retrouver dans les jardins Descartes et nous retrouver lundi prochain à 18h pour la réunion de rentrée et le lundi d'après, le lundi 5 octobre pour notre AG, l'Assemblée Générale de Transistor, le 5 octobre à 20h. Notez ces dates dans vos agendas. Vous pourrez découvrir toutes les improvisations qu'on a fait au micro, les émissions, en quoi vous pouvez participer à Transistor. Venez rejoindre Transistor, venez nous rejoindre derrière les micros. C'est lundi prochain et celui d'après pour la réunion de présentation et l'AG de Transistor. En attendant, Maï, tu nous as concocté pour ce direct une petite fiction sonore inédite.
Exactement, ça s'appelle le cauchemar des mascus. Oula. Dans les rues du quartier de la Croix-Rousse, au milieu des années 90, on prétend qu'une sorcière rôdait. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire, c'est parce que Gérard Collomb a tout fait pour étouffer l'affaire, et ce, dès son premier mandat. Mais les anciens se rappellent, et quand ils marchent le soir dans les pentes, il leur arrive encore de frissonner, alors qu'une étrange mélodie leur revient en tête. Le premier cadavre, on le retrouva un petit matin d'août, au milieu de la place Satonnet. C'était le corps d'un homme d'une quarantaine d'années, il était allongé nu, juste au pied de la statue. Les derniers lambeaux de son t-shirt à moitié arraché laissaient entrevoir un ventre proéminent dont les poils étaient coagulés par le sang. Il avait vraisemblablement été poignardé à plusieurs reprises. Mais ce qui était vraiment marquant et qui fit que le fait divers défraya la chronique, c'est qu'on avait tracé sur le visage du bonhomme, alors même qu'il était resté figé dans la mort dans une expression terrifiée, un immense sourire à l'aide de son propre sang. Une enquête fut ouverte, mais elle n'aboutit à rien. Aucune empreinte, aucun indice, aucun motif valable qu'on aurait pu attribuer à l'entourage de la victime. L'affaire fut classée sans suite. Les mois passèrent. Peu à peu, les habitantes et habitants de la Croix-Rousse oublièrent le meurtre et personne ne pensa plus au cadavre de la place Satonnet. Le tueur avait dû s'enfuir très loin pour échapper à la justice et l'homme assassiné n'étant pas du quartier, personne ne se sentait particulièrement touché. Un phénomène pourtant apparut à cette même époque, mais on ne fit pas tout de suite le rapprochement avec le meurtre. Sur les murs des rues de la Croix-Rousse, de grands traits courbes et écarlates comme des sourires morbides furent tracés un peu partout. Ils s'effaçaient facilement, comme dessinés avec une mauvaise peinture à l'eau, disparaissaient avec la pluie ou les chiffons des concierges. Mais inlassablement, quelqu'un continuait à les dessiner de nouveau. C'est au printemps suivant que tout recommença. La Croix-Rousse entrait dans la belle saison avec son effervescence habituelle. Les rues étaient animées, envahies de touristes et de tous les Lyonnais qui venaient s'y divertir. La chaleur encourageait les sorties nocturnes et malheureusement aussi les dragueurs lourdingues incapables de se contenir à la vue d'une robe d'été. C'est un voisin qui donna l'alerte lorsqu'il retrouva un homme dans un passage sombre, le crâne détruit comme fracassé contre un mur, avec un immense sourire sanguinolent peint sur le visage. Mais le plus étrange, c'est que ce même soir, à quelques rues de là, on retrouva une jeune femme encore sous le choc, qui tenait des propos incohérents et qui affirma reconnaître la victime. Elle raconta avoir été poursuivie par cet homme alors qu'elle rentrait chez elle dans la soirée. Elle venait de tourner dans une ruelle, son agresseur à ses trousses, quand elle avait entendu un cri horrible. Et en se retournant, elle aurait aperçu une mare de sang s'écouler lentement dans le caniveau. Elle refusa d'en dire plus. Étrangement, la jeune femme ne sembla pas vraiment traumatisée par ces événements. Au contraire, elle se mit à fredonner, sans cesse fredonner, une petite chanson au rythme entraînant. Les meurtres s'enchaînèrent. Toujours le même schéma, des hommes de tout âge, de toute origine, de toutes les professions, retrouvés morts, poignardés, tabassés, le crâne enfoncé, les membres cassés. Des hommes très bien, sous tout rapport, assassinés comme des moins que rien et retrouvés avec un sourire peint sur le visage à l'aide de leur propre sang. Très vite, la peur envahit le quartier. Les hommes craignaient de sortir chez eux une fois la nuit tombée. Ils s'arrangeaient souvent pour se faire accompagner par leurs épouses ou leurs petites amies, ou alors rester en groupe. Ils évitaient les ruelles sombres et préféraient, certains soirs, ne pas sortir du tout afin d'éviter de prendre des risques. Des rumeurs circulaient. On racontait que les victimes portaient toutes des jeans bleus assez moulants, mais le lendemain, un homme en pantalon de velours ou en costard était retrouvé mort. On disait que les victimes avaient bu et un ogre sobre était tué. Qu'elles étaient célibataires et ont retrouvé un homme marié, père de famille et ventré à même le sol. Il n'y avait pas de profil type, des beaux, des laids, des pauvres, des riches. Un seul critère commun à toutes les victimes, il ne s'agissait que d'hommes cisgenres. Peu à peu, les rues de la Croix-Rousse, le soir, s'étaient faites très féminines. Mini-jupes, robes, rouges à lèvres, cheveux longs ou courts, gambettes, poilues ou épilées, toutes les femmes étaient de sortie. La police soupçonna évidemment l'une d'entre elles d'être à l'origine du massacre et tenta de les interroger. À la grande surprise des inspecteurs, elles acceptèrent volontiers de coopérer. Chacune d'entre elles affirmant avoir aperçu, dans les derniers jours, une femme suspecte. Le souci, chaque description de la prétendue tueuse était différente. Tantôt petite et ronde, tantôt grande et mince, elle avait le crâne rasé ou une chevelure de lionne, un tailleur ou une salopette, les yeux bleus, puis verts, bref, impossible d'établir un portrait robot. Les sourires rouges sur les murs s'étaient démultipliés. On ne pouvait plus marcher dans les rues sans que son regard n'en rencontre un. À chaque fois que les inspecteurs de police patrouillaient dans le quartier, ils sentaient peser sur eux les regards noirs de toute la gente féminine, rassemblée dans les bars et sur la place pour profiter de l'été. Mais quand ils regardaient de plus près, promptes à dégainer leur outrage à agents, on leur adressait d'immenses sourires. Plus étrange encore, il leur semblait, lorsqu'ils tournaient le dos à un quelconque groupe de jeunes femmes, entendre fredonner une chanson, toujours la même, une litanie entraînante, mais qui leur semblait terriblement menaçante.
Jouer le prince charmant.
Au fil des années, les meurtres finirent par s'espacer avant de cesser complètement. On dit néanmoins qu'un sourire rouge apparaît encore parfois dans les rues de la Croix-Rousse. On raconte aussi que si un homme entend résonner la nuit comme une chanson derrière lui, il ferait mieux d'avoir la conscience tranquille, ou alors de courir très vite.
C'est à toi Benoît maintenant pour ton billet d'ailleurs qui nous emmène voyager un petit peu.
Oui, on repart en Pologne ensemble.
Et le mouvement Nuit Debout se poursuit.
Les fascistes et réactionnaires.
C'est même étendu ces derniers jours en région.
Tous les sujets seront abordés, il sera mon invité en direct.
La pandémie a éloigné pour un temps de nos esprits certaines échéances électorales de haute importance en Europe comme ailleurs. Tout le monde au sein de l'Union européenne semble avoir détourné la tête de l'Europe de l'Est et de sa longue plongée dans l'extrême droite. Un silence assourdissant plutôt que l'engagement d'un réel débat contre l'installation durable de régimes fascisants et traditionnalistes dans plusieurs pays, à commencer par la Hongrie mais aussi et surtout par la Pologne. Car si le conservatisme s'est installé en Pologne très tôt après la chute des ex-régimes communistes avec les présidences de Kaczynski et de Komorowski, la réélection de Andrzej Duda pour un deuxième mandat de 5 ans le 17 août dernier a marqué un tournant dans le recul des droits des minorités LGBTQI+, et le droit des femmes en Pologne.
Je suis là parce que je pense que c'est important d'être solidaire avec les personnes LGBTI+, du monde entier, et en l'occurrence en Pologne, la situation pour ces personnes est assez dangereuse et catastrophique, je pense.
There was only one way of living. That I'm a man, so I have to have a wife and have a lot of children. There was no way of thinking that I can be with the other men, that we can love each other. Yesterday, I was attacked 2 times.
We don't have equal rights, we don't have hate protection, there is no hate crime and hate speech laws, we don't have marriage equality in Poland. When you want to recognize your gender, there is no gender recognition.
We were physically attacked. Only by chance nothing serious happened, because when people are attacked by the church that LGBT people are connected with pedophilia, it is to cover their own problems with pedophilia, yeah, within the church, which comes up to the surface very often now.
Pourquoi je suis là? Déjà parce qu'en tant que personne LGBT, je me sentais
presque bah, carrément forcée et juste super concernée par ce qui se passait.
I'm scared a bit. I have a tear gas with me. Yeah, so as you can see, they basically shout, get the f*** out of here to me and to other people like me. So I can't feel welcome in my country.
Et encore une fois, bien que ce soit pas en France, que ce soit dans le monde, ailleurs dans le monde, je peux pas en fait me détacher de ce qui se passe et juste si je peux apporter un minimum de moi, enfin je peux pas aller en Pologne à ce que je sache, donc si je peux être au moins ici, puis juste ressentir un peu de ouais, un peu de sororité version LGBT avec plusieurs personnes, c'est cool quoi.
Duda a fait campagne cette année autour de l'idéologie LGBT, parlant de peste arc-en-ciel comme menace qu'elle supposait représenter sur les familles polonaises comme des pédocriminels en puissance. Ce dernier a jeté de l'huile sur le feu d'un terreau fasciste déjà particulièrement fertile, où un tiers des municipalités s'est d'ores et déjà déclaré zone sans LGBT. L'héritage de l'ancien pape réactionnaire Jean-Paul II n'y est pas pour rien en Pologne, où se dessine le renouveau d'un mouvement traditionnaliste porté vers un populisme catholique accusant tous les droits acquis de porte ouverte vers le communisme. Enhardis par l'Église et l'État, les fascistes se sont sentis autorisés à menacer de mort frontalement les différentes prides qui se sont tenues un peu partout dans le pays.
We had a pride season, so lots and lots of pride marches have been marching down different cities and towns, even smaller towns. And a few weeks before. I think 2 or 3 weeks before, there was a march in Białystok. It's in the east of Poland. And there was, well, basically almost a riot broke because lots and lots of protesters stood on the way of the march. They were shouting, they were throwing things, they were throwing bricks and stones and bottles filled with piss. They were running around with baseball bats, trying to, they called it actually, sorry for the wording, they called it actually a fag hunt.
Devant le silence assourdissant des divers gouvernements européens face à la menace qui monte pour les minorités LGBTQI+, en Pologne, certains rassemblements se sont tenus un peu partout devant les ambassades de Pologne, comme à Lyon, il y a maintenant 2 semaines. Alors que la situation devient de plus en plus préoccupante, les militantes queer attendent une réaction de la communauté européenne vers ce qui s'annonce être un des plus grands reculs des droits humains. Qui pourrait par ailleurs ne pas être le dernier en date, alors qu'on voit déjà se profiler derrière une politique nataliste un retour en arrière du point de vue du droit à la contraception et à l'avortement.
Le gouvernement parle de peste arc-en-ciel. Aujourd'hui, près de 31% de la population polonaise vit dans des collectivités déclarées comme zone sans idéologie LGBT. Margot est une militante qui a été arrêtée le 7 août dernier suite à un rassemblement spontané de personnes LGBTI+. Elle est actuellement maintenue en détention préventive avant son procès. Nous demandons sa libération. Suite à son arrestation, un rassemblement de soutien avait été organisé. 48 autres personnes avaient été placées en garde à vue. Parmi les personnes arrêtées et placées en garde à vue, certaines ont signalé des violences physiques et ou sexuelles de la part des forces de l'ordre. Leurs droits en garde à vue ont également été bafoués et elles se sont retrouvées sans possibilité de contacter l'extérieur et sans information à propos de leurs droits. Dans ce contexte, nous exigeons la libération immédiate de Marco. Nous exigeons une sanction visant à prévenir les violences exercées à l'encontre des militants.
Non, c'est juste, il me semble que c'est une personne qui a fait une action militante, je crois que c'est un tag, je suis plus sûre. Et du coup, là, qui est emprisonnée depuis, ça fait un petit moment, en fait, principalement parce qu'elle est LGBTI, plus par, à cause de l'infraction qu'elle a commise. Et du coup, c'est assez catastrophique pour les droits humains. Et les personnes LGBTI sont encore en danger dans plein d'endroits dans le monde, même en France. Même si par rapport à d'autres pays c'est mieux, c'est toujours compliqué. Et du coup on a encore à lutter pour nos droits au quotidien. Et du coup c'est important de montrer qu'on est là même si on est loin.
Un silence un peu inadmissible je pense quand même. Enfin c'est quand même compliqué d'avoir de l'information sur ce qui se passe en Pologne. Quand on l'a c'est toujours partiellement etc. Là on peut pas nier le fait que ça arrive mais un silence qui est clairement voulu et on prend tellement pas en compte ce qui se passe et encore une fois super déçu.
La mise en place de mesures de la part de l'UE pour sanctionner le gouvernement polonais. Nous exigeons
que le gouvernement français prenne clairement position contre cette situation. Nous inciterons à la plus grande vigilance de la part de chacune dans un contexte où, de manière générale, les droits des personnes LGBTI+ et des femmes ne sont pas une priorité, ne sont pas assurés et restent révocables à tout instant. C'est pour ça que nous vous avons appelé aujourd'hui les Lyonnais et Lyonnaises à ce rassemblement devant le consulat de Pologne avec drapeau et pancarte pour porter ces revendications et exprimer notre soutien aux personnes LGBTI+ en Pologne. Soutien lyonnais aux queer polonais et polonaises.
Young LGBT people, if you hear that you are ideology, that you are not the human beings, remember that it's not about you. You are normal. Future will be better.
Et voilà, donc vous écoutez toujours le direct de rentrée de Transistor au sein des Jardins Descartes pour ce goûter slash mini forum. Je ne sais plus comment on l'appelle, mais en tout cas pour ce moment de présentation des associations de l'école. Et on en profite pour rappeler que nous faisons notre réunion de rentrée le 28 septembre prochain, qu'une salle suivra peut-être quelque part, on ne sait pas où, ce sera voilà, par là, on va dire. Et pour continuer un petit peu ce tour d'horizon des chroniques que nous faisons régulièrement au sein du journal radiophonique Amplifié, je vais laisser la parole à Marie pour la culture.
Les paupières, les rabelles, les berlioz, les Maupassant, les Renoir et les Rembrandt qui survivent malgré le temps. Vive les Céline, les Zola, les Saint-Ex et les Degas, les Pascal et les Goya dont on ne se lasse pas. La culture est une valeur.
Oui, parce que c'est aussi la rentrée littéraire et que sur Transistor, nos émissions de littérature n'attendent que vos voix enthousiastes. Je vous propose une petite sélection des pépites de cette rentrée littéraire. Alors d'abord un poids lourd, même s'il est contesté, Emmanuel Carrère. Et oui, l'auteur vient de publier Yoga, un texte qui mêle actualité et introspection, réflexion personnelle et anecdotes sur la méditation. À la fois récit de vie et récit sur la vie en général, le texte a été pensé par l'auteur comme une conversation avec le lecteur. Une sorte de journal intime déguisé qui nous permet à nous de nous reconnaître dans les errances de l'auteur et qui lui permet à lui, Emmanuel Carrère, connu pour avoir signé L'Adversaire et Le Royaume, de, je cite, « donner forme à ce qu'il a vécu et façonner la matière qui forme son quotidien ». Pour un peu plus de légèreté, changement de style radical avec le dernier né de Fabrice Caro, à qui l'on doit la BD Zai 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 et le désopilant roman Le Discours. Dans son ouvrage Broadway, Fab Caro nous raconte la vie d'un homme qui, à 47 ans, reçoit une enveloppe bleue de dépistage du cancer colorectal. Une enveloppe bleue que normalement on ne reçoit qu'à 50 ans et qui entraîne le narrateur dans une crise existentielle, vertigineuse et déjantée. Un roman frais et pétillant qui prend le pari de l'humour décapant d'ailleurs pour évoquer avec une finesse rare les problèmes d'un bobo en pleine crise. Plus efficace que des logorées gonflées de pathos et de moralisme, à la fois délicieusement moqueur, franchement drôle et délicieusement poétique. Pour des ouvrages un peu plus sérieux, vous pouvez d'abord faire un peu d'histoire en cette rentrée. En lisant par exemple « Comédie française » d'Éric Reinhardt, vous apprendrez qu'Internet aurait pu être une invention française, tout en savourant de réjouissantes trouvailles littéraires et des péripéties soignées. Si vous voulez vous évader, voyager un petit peu plus loin, le percutant « Nickel Boys » de Colson Whitehead est pour vous. En ouvrant les pages de ce roman historique habilement mené, on plonge immédiatement dans l'ambiance poisseuse de la Floride des années 60, au cœur de l'enfer d'une maison de correction. Un ouvrage poignant dont l'atmosphère et la dureté nous imprégnera encore longtemps, unanimement salué par la critique. Et enfin, dans L'Homme en rouge, vous suivrez le quotidien de Samuel Pozzi, médecin de la belle époque, une belle plongée dans une période historique que l'on connaît trop peu. Et pour finir, quelques recommandations du rayon essai. Vous pourrez lire Zootopie de Joël Zask qui évoque la présence des animaux en ville. Ou comment les grillons ont disparu du métro parisien, comment éviter que les oiseaux ne s'écrasent contre les vitres des gratte-ciel, pourquoi il y a 13 000 sangliers à Berlin, mais surtout comment penser une coexistence vertueuse avec la faune des milieux urbains. Pour quelque chose d'un peu plus scientifique, et j'ai fini bientôt, jetez-vous sur l'Odyssée des gènes de la biologiste Evelyn Heyer, ou comment les généticiens disposent d'outils qui leur permettent de réécrire l'histoire de l'humanité et de sa conquête de la Terre. Un livre riche en surprises et en révélations, vulgarisé de manière très accessible et qui, d'un livre de biologie, se transforme bientôt en une épopée scientifique, historique et culturelle. Un ouvrage qu'il faudra compléter par des études de sciences sociales, auxquelles il accorde peu de place, mais qui a quand même le mérite de nous faire découvrir tout ce que l'étude de l'ADN peut nous permettre de réaliser. Et si vous voulez discuter de nos coups de cœur littéraires, savourer des ouvrages gratuitement, vous pouvez écouter l'écume des pages sur notre site transistor.fr ou tout simplement nous rejoindre pour parler de vos coups de cœur. Écoutez l'écume des pages ou venez nous rejoindre à Transistor. Lundi prochain, nous serons là à 18h. On vous attend, on vous accueille à bras ouverts.
C'est vraiment très sympa ce truc.
Transistor. C'est la rentrée sur Transistor.
Computation.
CRNSIFTWARE. En direct de rue Descartes. La web radio.
Force Field.
Des émissions de qualité. Transistor.fr.
Computation.
Des chroniqueuses et chroniqueurs.
Erasing. Force field. Frequencies.
Et pour finir ce direct, Nathan, tu nous as concocté un horoscope pour savoir ce que nous réservent les prochains jours.
Dans mon horoscope, il y a des chômeurs. Dans mon horoscope, il y a des moches. Des très moches. Dans mon horoscope, amour. Ça dépend, travail, ça dépend. Ça dépend des gens.
Et oui, on finit ce live avec votre avenir, puisque c'est le moment de lire dans les astres sa providence, que vous cherchez une excuse pour larguer votre copain, une raison d'affronter le début d'année ou un peu de baume au cœur face à l'automne qui avance à grands pas. Vous êtes sur les bonnes ondes, d'Uranus à Transistor, il n'y a qu'un pas, qu'une voie, et c'est celle de l'horoscope. On va commencer avec le signe de notre très cher président. Tu es de quel signe, Marie ?
Je suis Taureau.
Taureau, oh, Taureau, bravo. Cette semaine, tu vas découvrir le sens de la vie, rien que ça. Oh. Excité par cette découverte, tu écriras un livre, on pourra en parler dans l'écume des pages du coup, pour partager cette révélation à tous nos concitoyens. Malheureusement, le jour de sa parution, tu seras dépité lorsque tu découvriras que ton livre est dans le rayon bien-être, alors que même Eindhoven a le droit au rayon philo. Bélier, l'espoir vous a fait vivre tout l'été, mais vous vous rendez compte que vos coups de soleil ne se sont jamais transformés en bronzage. Poisson, vous ramenez un saucisson à un brunch vegan, un bourgogne pour une soirée de bordelais, vous parlez de finances vertes à vos potes de gauche, pire, vous faites une blague de droite sur une S de Lyon même, bref, il faut se ressaisir. Gémeaux, ce mois-ci, fini la grisaille parisienne, vous partez au sud vivre le soleil à Lyon. Votre première semaine sera formidable. Vous ferez toutes les cueillettes à la ferme du coin et passerez vos soirées à marcher dans le vieux en vous esclaffant avec votre époux. Ah, on est quand même mieux qu'à Paris. Quel pied ! D'autant plus que vous passez vos week-ends à rentrer voir vos amis dans la capitale pour leur vanter le bonheur d'habiter dans un Paris à taille humaine. Malheureusement, le mois suivant sera moins radieux. Il n'y a pas assez d'expos pour pouvoir en snober la moitié. Il fait toujours autant froid et gris l'hiver. Et enfin, vous découvrez avec horreur que la mer est à 3 heures de route. Vous décidez de quitter cette ville d'ennui pour Marseille. Continuez comme ça, vous êtes si unique et intrépide. Cancer maintenant. Encore une mauvaise nouvelle ce matin. Votre vie vous saoule. Dites-vous que vous aviez moins de chances d'exister que la Gay Pride à Doha, et pourtant vous êtes là. Putain de probabilité de merde. Lion. Cela fait des mois que vous feignez l'indifférence pour votre crush. Cette semaine, cela portera enfin ses fruits puisqu'il vous adressera la parole. Les astres sont très précis. Après vous avoir légèrement bousculé, il vous esquissera un timide « Oh, désolé ». Il est in love, c'est sûr, continuez comme ça. Vierge, cette semaine on a reçu une plainte d'Uranus contre Pluton pour attouchement interstellaire. Nous considérons donc un remaniement du système solaire. C'est le scandale. Virginie Neptune a écrit un article incendiaire dans le quotidien L'Univers. D'habitude plus revendicative, Marlène Chamars soutient elle étonnamment l'auteur supposé de l'agression et l'applaudit même. Du coup, pas de prédiction pour vous, désolé. Il faudra trouver par vous-même une excuse pour aller au travail. Balance. Vous avez une implantation capillaire haute, vous n'avez pas abandonné vos rêves d'enfant et votre femme est fidèle. Continuez comme ça, le mensonge est moins cher qu'une thérapie. Scorpion, vous habitez à Bordeaux et pourtant vous êtes anti-parisien. Votre vie a moins de sens que le dernier film de Nolan. Sagittaire, vous êtes cocu ou vous passez la grègue. Quoi qu'il en soit, entre votre vie sentimentale et votre vie sociale, il va falloir enterrer quelque chose, avec un doublé pour les plus doués. Capricorne, oh mon Dieu, votre vie c'est de la merde. Allez, pour vous remonter le moral, une petite blague. Pourquoi les Belges vont-ils à l'église avec un seau d'eau ? Pour l'Ave Maria. Et enfin, Verseau, une grande année se promet pour vous, puisqu'à la suite de l'écoute de ce merveilleux direct, vous déciderez de rejoindre Transistor et pourfendrez le micro de votre voix suave. Transistor recrute et vous êtes la bienvenue.
C'est vraiment très sympa ce truc.
Transistor. C'est la rentrée sur Transistor.
Computation.
En direct de rue Descartes, la web radio.
Force Field.
Des émissions de qualité.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On était au centre des Jardins Descartes. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site transistor.fr et découvrir également toutes nos autres émissions. Alors, on a de l'actualité, de la politique, de la littérature, du cinéma, de la musique, de la fiction, de la culture, des horoscopes, des revues de presse, de l'économie et j'en passe. Venez nous rejoindre, quel que soit votre dada, quelles que soient vos envies. On vous accueille à bras ouverts. On a besoin de nouvelles voix et n'hésitez pas à venir nous rencontrer. On aura deux réunions en cette rentrée, une première réunion de présentation le lundi 28 à 18h et notre assemblée générale le lundi 5 octobre à 20h à Transistor. Rejoignez-nous, regardez ce qu'on fait sur notre site. N'hésitez pas à venir nous poser des questions lundi 28 septembre et on a hâte de retrouver vos voix enthousiastes sur les ondes de Transistor.
Computation. Erasing.